Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter le moment de marché actuel. Pour nous accompagner ce soir, trois experts. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Jeanne Asseraf-Bitton. Bonsoir Jeanne Asseraf-Bitton.
Bonsoir Nicolas.
Directeur de la recherche et stratégie de BFT IM. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Hervé Goulet-Kerr. Bonsoir Hervé Goulet-Kerr.
Bonsoir Nicolas.
Senior Economic Advisor d'Accuracy. Et puis enfin, à nos côtés également, Florian Yelpo. Bonsoir Florian Yelpo.
Bonsoir Nicolas.
Responsable macro au sein de l'équipe multi-assets de Lombard Odier IM. On va commencer avec vous, Jeanne Asseraf-Bitton. Alors, on va évidemment réagir à ce chiffre de l'inflation aux États-Unis, hein, plus 3,2% sur un an, plus 3,8% dans sa version core, un chiffre qui était très attendu en ce début de semaine. Une réaction des marchés qui le considèrent comme un non-événement, voire même presque comme un événement plutôt positif, puisqu'on voit le S&P 500 qui, à l'heure où on se parle, progresse de 0,8%, le Nasdaq plus 1%, le CAC 40 plus 0,8%. Comment est-ce qu'on n'explique finalement qu'un chiffre de l'inflation qui est quand même encore au-dessus de 2%, un peu supérieur aux attentes des analystes, soit vécu comme les marchés financiers, par les marchés financiers finalement comme une nouvelle pas si mauvaise que ça?
Bon, je crois d'abord que la surprise est de petite ampleur, hein. C'est légèrement au-dessus des attentes, donc c'est important. Ensuite, quand on regarde les composantes, vous avez une certaine viscosité de l'inflation des services. Et si on veut zoomer un peu plus, c'est l'inflation des services hors logement, puisque l'inflation du logement, qui est une composante très importante, est en train de décélérer à un rythme qui, certes, pourrait être plus rapide, mais en l'occurrence, non. Et c'est parce que ce sont les effets de base qui tirent cette décélération et on sait qu'elle va continuer. Donc, on va dire que la désinflation ou que les chiffres dans l'ensemble valident quand même une désinflation aux États-Unis, mais très lente.
D'accord.
Progressive, qui témoigne du fait que l'activité est encore solide. Donc, en fait, ce sont des chiffres qui sont presque là pour dire le scénario d'une désinflation avec une économie ralentie mais sans récession est validé. Alors, les marchés obligataires se sont un peu tendus, donc on a vu les 10 ans gagner quand même 7 ou 8 points de base, mais les marchés actions, au fond, ne sont pas mécontents, parce que c'est un scénario qui convient. Il n'y a pas de... on va dire que les chiffres en eux-mêmes ne sont pas suffisamment surprenants pour que le marché ait corrigé ses anticipations de détente monétaire de la Fed. Elles sont restées à peu près identiques, 3 à 4 baisses des taux d'ici la fin de l'année. Donc, ça reste un scénario qui serait porteur, en réalité, pour les actifs.
Pas de remise en cause, effectivement, d'un scénario de baisse de taux et de nécessité d'une baisse des taux de la Fed, effectivement, à mi-année.
Pas forcément d'une nécessité, d'une possibilité.
D'une possibilité, d'accord. Ouais, parce qu'on a l'impression que le marché le vit comme une nécessité, quand même. Mais...
Je sais pas. je crois que le marché dit... la Fed jugera qu'en juin... il sera approprié de commencer à baisser les taux. Et 3 baisses et demie, je crois que c'est ce qui est dans les probabilités aujourd'hui implicites de marché, c'est pas non plus un scénario qui dit il y a urgence à baisser les taux. D'ailleurs, pas mal de gouverneurs se sont exprimés pour dire... Il n'y a pas d'urgence.
Finalement, il n'y a pas tant d'urgence que ça. Et, chiffre de l'inflation aujourd'hui, alors évidemment, mise en regard de beaucoup d'autres indicateurs, vient valider cette idée qu'on a le temps quelque part.
En tout cas, la Fed peut considérer qu'elle a le temps. On a eu aussi les chiffres vendredi de
sur l'emploi, oui.
Voilà, sur l'emploi. Alors avec pas mal de contradictions, puisque le chômage remonte, la création d'emplois reste très forte, mais on sait que ça vient d'enquêtes de nature différente. Et on sait aussi que les chiffres de ces enquêtes commencent à diverger quand on est sur des moments d'inflexion.
D'accord.
Donc on comprend bien que le marché du travail est dynamique, mais que ça y est, ça commence quand même à ralentir. Et on le voit à beaucoup d'autres indicateurs, y compris l'enquête des petites entreprises. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous disent que ça ralentit. Mais tant qu'on n'est pas dans un scénario de récession aiguë, les marchés sont contents. Croissance modérée ou en voie de ralentissement et désinflation. Si les marges des entreprises tiennent encore, le marché...
Tant que les marges des entreprises tiennent, tout va bien quelque part. C'est ce qu'il faut comprendre. Là, on a parlé des scénarios de marché. Si on vient peut-être à vos convictions, à votre scénario, avec les chiffres de l'emploi qu'on a découverts en fin de semaine dernière, avec ce chiffre de l'inflation, effectivement, vu aujourd'hui, est-ce que ça vient valider, remettre en cause le scénario que vous avez, vous, finalement, vis-à-vis des politiques monétaires qu'on peut voir cette année.
On a gardé depuis plus d'un an le même scénario, c'est-à-dire l'idée que la Fed commencerait à desserrer sa politique monétaire à partir de la mi-année.
D'accord.
Alors, je veux pas parier sur le fait que ce soit juin, juillet, enfin, ce sont... Bon, mais c'est le mouvement, mais elle sera probablement prudente et cette attente peut être révisée si jamais on devait avoir des chiffres plus forts dans l'intervalle. C'est pas notre avis, là, ce qu'on a vu, c'est un chiffre qui est cohérent, de même que les chiffres sur l'ensemble des chiffres sur le marché du travail sont cohérents avec, on va dire, une détente, mais très progressive. Alors, ça pourrait s'accentuer un peu en deuxième partie de l'année. Mais bon, voilà, c'est notre scénario. C'est une croissance ralentie et une désinflation, mais très progressive.
Hervé Goulet-Kerr, même question. Finalement, une inflation à 3,2%, 3,8% en version core aux États-Unis, c'est presque une bonne nouvelle, finalement, pour les marchés actions et pour les scénarios validés par les marchés actions ou anticipés par les marchés actions depuis la fin d'année 2023 ? Pas trop de désinflation, mais suffisamment pour montrer qu'il y en a une.
Moi, ce qui me semble clair, c'est que les marchés ont un cap, qui est aujourd'hui un cap à la valorisation du prix des actifs actions, et d'autres actifs risqués d'ailleurs. On pourrait parler du crédit, on pourrait parler du bitcoin. Hein,
bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Même si le statut du bitcoin est peut-être en train de changer, c'est un sujet intéressant. Mais en fait... ils gardent leur cap avec des anticipations qui ont quand même énormément bougé. Je rappelle qu'en début d'année, ils pariaient sur 7 ou 8 baisses de taux directeurs américains. Ils sont aujourd'hui, Jeanne vient de nous le rappeler, sur 3 ou 4.
Bien sûr.
Et imperturbablement, je dirais, le marché action a continué de monter.
Donc la nouvelle change, mais c'est jamais une mauvaise nouvelle, c'est ce qu'il faut comprendre.
J'ai un peu l'impression que y a un scénario très général, qui est le scénario en fait cyclique. L'inflation va ralentir. Bon, ça va apporter un peu de soutien à la croissance, donc peut-être qu'elle n'est pas mirobolante, mais en fait, elle va bien, et le mix des deux va permettre au taux d'intérêt de baisser. Voilà l'histoire qu'on nous raconte. Je pense que, en termes d'histoire, on est quand même à un moment où la visibilité est faible, et en fait, c'est peut-être le scénario central retenu par le marché, mais mon petit doigt me dirait que la probabilité accordée à ce scénario central peut quand même pas être extrêmement élevée. Le patron de JP Morgan hier nous racontait que pour lui, le scénario, alors je sais pas s'il était central ou le risque principal, mais assez élevé, c'était un scénario de stagflation. Je pense que dans l'environnement de politique intérieure, de politique internationale que l'on a aujourd'hui, qu'avec le tempo relativement faible de la croissance, ça aille mal et qu'on finisse par une récession, c'est possible aussi. Donc moi, j'ai ma conviction que le choix des possibles est beaucoup plus ouvert que ce que l'on dit, tiens, c'est ce scénario cyclique de boucle d'or, comme on dit,
bien sûr,
qui va l'emporter. Maintenant, si on regarde les prix des marchandises sont revenus à la normale, j'enlève l'énergie, les produits alimentaires, on est à zéro, donc on est revenu à un rythme qui était celui d'avant la succession de chocs qu'on a eu. Sur les services, on n'y est pas du tout. On est 2 points au-dessus du rythme que l'on avait avant, on était plutôt sur 3% l'an, on est plutôt sur 5% l'an. Donc là, il y a deux choses, Jeanne nous l'a dit, hein, il y a les services hors immobilier et il y a l'immobilier. Sur les services hors immobilier, c'est une affaire de coût du travail, le salaire, la productivité. On n'y voit pas très clair aux États-Unis parce que, bon, les salaires ont été bouleversés par les chocs, la productivité aussi. Qu'est-ce qui va apparaître ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas mauvais. Donc ça pourrait donner l'idée d'un certain ralentissement du prix des services, et donc par rapport à 4% d'inflation, on pourrait peut-être revenir vers un peu moins. Moi, je ne pense pas qu'on reviendra vers 2.
D'accord.
Je ferai le pari de 3.
C'est un vœu pieux, quelque part, de revenir à 2%?
Moi, je pense que face à tous les changements du monde, à tous les changements de gestion de l'économie que l'on voit apparaître dans le monde, se braquer sur la cible que l'on avait précédemment avec un fonctionnement différent, je pense que c'est un peu un vœu pieux et qu'on devrait s'interroger sur le monde change, qu'est-ce que ça veut dire sur la politique monétaire et au passage, qu'est-ce que ça veut dire sur la cible d'inflation que l'on retient. Puis après, il y a l'immobilier. Moi, j'ai l'impression que le ralentissement de l'immobilier, il va très lentement. Alors, parce que les loyers suivent ce qui se passe sur le prix des biens échangés, des logements échangés avec retard, avec une certaine inertie. Moi, je pense qu'on va garder tout de même une inflation immobilière au niveau des loyers plus élevé que ce que l'on imagine parce que aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs parce qu'il y a un déséquilibre offre-demande sur le prix de l'immobilier échangé, donc acheté vendu, il y a une raréfaction de l'offre qui fait que baisser c'est juste pas simple.
Mais alors pour bien comprendre, ça veut dire qu'il y a un scénario dans lequel on reste à une inflation aux alentours de 3% et il y a moins de baisse de taux qu'attendue par les marchés et finalement on reste dans un environnement de taux directeurs élevés et d'inflation plus élevée que prévu. Ça c'est un scénario qu'il faut prendre en compte aujourd'hui.
Moi si je devais signer pour un scénario, je signerais pour ce scénario là. Le monde a changé, c'est-à-dire que le marché a un raisonnement cyclique. Alors un raisonnement cyclique, après tous ces chocs, retrouver la pureté du cycle, c'est un peu compliqué. Et ces chocs ont sans doute changé la façon dont l'économie marche. La mondialisation aujourd'hui devient un jeu à somme nulle. C'est plus un accélérateur de croissance. Sur le marché de l'emploi, on voit bien que la dynamique des salaires va être plus élevée maintenant qu'elle ne l'était avant ces chocs. On voit un certain nombre de choses comme cela. Il y a évidemment le financement de la transition énergétique
bien sûr.
Qui va coûter beaucoup d'argent, qui va avoir des impacts sur les finances publiques et par ricochet sur les banques centrales. Donc il faut prendre tout ça en compte et se dire, mon cycle conjoncturel demain, il va se façonner dans un cadre structurel un peu différent et donc se remettre aux bonnes vieilles hypothèses d'avant et en disant on va revenir à ce schéma-là. Moi, je trouve que c'est un peu simpliste. C'est pour ça que je considère le marché prend ça comme hypothèse centrale. J'ai la conviction de croire qu'il ne peut pas accorder une probabilité quand même très très forte à ce scénario central.
Florian Hielpeau, que dire après tout ce qui a été dit en réaction effectivement à ce chiffre de l'inflation? Si je comprends bien, ça ne remet pas beaucoup de scénarios économiques en cause aujourd'hui ou financiers. Est-ce que ça a eu un impact sur votre scénario économique chez Lombard Odier IM ou ça reste dans la lignée de ce qui était attendu pour ce début d'année?
Pour nous, c'est un très bon rapport sur l'inflation, en fait. On attendait que l'inflation reste en dessus de 3%. C'est ce qu'elle a fait. Pas nous, mais le consensus.
Bien sûr.
Ça nous va plutôt bien. On a eu une séquence de deux chiffres qui étaient en dessus des attentes. C'est le premier chiffre qui est en dessous des attentes sur la partie corps. Ça nous va également bien. Et on pense qu'il faut aussi distinguer la partie quantité et la partie qualité. C'est-à-dire, on en a déjà un petit peu parlé, l'inflation des services, l'inflation la plus macro, effectivement, elle se replie marginalement, mais il n'y a pas que ça. Il y a des éléments qui, en tout cas, qui nous interpellent, les services médicaux, où on voit moins d'inflation qu'on en a eu jusqu'à présent. Côté bien, on a la partie loisirs, entre guillemets, je ne sais jamais comment traduire ça bien en français, mais où là aussi, on a une forme de modération de l'inflation. Donc, quand on regarde dans les détails, quand on regarde la tendance, pour nous, le scénario central, ça reste soft landing, désinflation, pivot des banques centrales. Simplement, elles ne pivotent pas parce qu'il est urgent de pivoter. Elles ne pivotent pas parce qu'on a tellement avancé, attendu dans le virage que maintenant, c'est le dernier moment pour braquer le volant.
D'accord.
Elles ont pivoté en avance et elles tentent de nous délivrer quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, qui est ce fameux soft landing, une anomalie historique.
qui n'est pas encore atteint, donc on ne sait pas s'il arrivera. Oui, mais
force est de constater que la séquence est là, c'est-à-dire que les deux ISM qu'on a eu, services manufacturiers aux États-Unis sont plutôt en deçà des attentes, plutôt en recul. Donc effectivement, il y a une normalisation économique qui est en train de se produire. L'inflation continue. Alors évidemment, c'est pénible à la fin. Et puis, bon, la composante OER, la partie justement immobilière, elle est calculée d'une façon assez sioux. Ça n'est pas réellement en fait une mesure de loyer.
C'est une interview
de gens qui sont propriétaires et on leur demande combien est-ce qu'ils auraient loué leur bien. Bon, il y a plein d'éléments qui vont rendre la poursuite de cette désinflation peut-être un petit peu chaotique. C'est pas une ligne droite. Maintenant, ce chiffre-là, il ne remet pas du tout cette... On peut y lire des remises en question, c'est pas ce qu'on fait. On voit plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide globalement sur ce rapport. Et surtout, on trouve que, ben, avec le ralentissement macro aux États-Unis qu'on est en train de percevoir, il y a des raisons de lire le chiffre de façon un peu plus positivement. Alors, les actions l'ont lu positivement, les obligations un peu moins. Les taux ont remonté assez vite. On verra le close du jour, mais ce close-là, il sera particulièrement important parce qu'on est justement sur un rubicon technique.
Bien sûr.
Qui est assez intéressant à observer. Pour nous, la plus grande frustration, c'est qu'on n'arrive toujours pas à revenir vers les obligations fortement. On est toujours sous-pondéré côté duration, justement, parce qu'on trouve qu'il y a trop de volatilité dans le monde obligataire qui reflète une trop grande volatilité dans le monde de l'inflation. Et par contre, côté action, on a plutôt une normalisation de la volatilité. Chaque moment d'inflation, peut-être un qui décline, disons, moins fortement que ce qu'on aurait imaginé, c'est aussi des perspectives de chiffre d'affaires. Les large cap, en tout cas, se sont remarquablement bien adaptés à ce régime-là et continue à montrer des rendements importants. Dernier élément, côté small et mid, on en parlait un petit peu avant que l'émission ne commence, mais on voit aussi des frémissements de ce côté-là, c'est-à-dire que oui, il y a ralentissement économique, oui, il y a normalisation économique, c'est de ça dont on parle, de normalisation
bien
économique.
Sûr, ouais.
Les taux étaient élevés, ils se normalisent, l'inflation était élevée, elle se normalise, la volatilité obligataire était élevée, elle tente de se normaliser, on n'a pas encore coché toutes les cases. On voit également une forme de normalisation dans la performance, les earnings des small et mid en ce moment, surtout du côté européen. Ça, c'est des éléments qui attirent notre attention. Et ce chiffre-là est assez cohérent. Enfin, la séquence des chiffres qu'on a eu récemment est assez cohérente avec ce scénario.
Une inflation au-delà de 3%, est-ce que... Alors, c'est peut-être effectivement une question qu'on se pose depuis un an déjà. Hein, donc, on va peut-être se la reposer encore aujourd'hui et avoir la même réponse. Mais est-ce que ça ne vient pas rajouter des craintes supplémentaires à une capacité, alors peut-être plus, peut-être moins pour les large cap que pour les entreprises de taille un peu plus modeste, mais de réussir à faire passer de nouvelles hausses de prix pour effectivement rester en phase avec cette inflation?
Même pire que ça, la question c'est si vraiment on doit lire voir le verre à moitié vide. S'il y a vraiment encore trop d'inflation dans le système, alors la probabilité du scénario principal du marché pourrait être encore ramenée à des niveaux plus bas. Pourquoi ? Parce que cette inflation persistante, elle doit nécessiter moins de baisses de taux que prévu.
Bien sûr.
On rappelle que 3 baisses de taux, c'est le scénario de la Fed. Hein. Le marché a fini par se mettre d'accord avec la Fed depuis le temps qu'on lui en parle, mais globalement, c'est le scénario de la Fed et aujourd'hui, il y a peu de raisons, en tout cas, qui sont remises en cause lors du prochain meeting trimestriel avec justement remise à jour des prévisions. Donc voilà, dans l'ensemble, cette inflation, ce chiffre d'inflation, évidemment, il est clé. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on va assister à un cycle d'over-tightening que la Fed a tenté à tout prix d'éviter en braquant le véhicule bien avant l'entrée du virage.
Jeanne Asraf-Bitton, alors on va évoquer hein, effectivement quel soutien aujourd'hui sur les marchés financiers, alors qu'on... Si tant est qu'ils en aient besoin. Hein. Quand on voit effectivement leur performance, on peut se demander effectivement si tout n'est pas un soutien à partir du moment où on le voit du bon côté. Juste avant de parler de ça, un mot quand même sur le soft landing qui a été évoqué par Florian Hielpo. On entend de plus en plus parler d'un no landing, ce soft landing se fait durer, est-ce que finalement il y aura réellement un atterrissage de l'économie américaine? Est-ce que vous avez un scénario là-dessus? Est-ce que pareil, depuis les trois premiers mois de l'année, deux premiers mois et demi de l'année, vous l'avez fait évoluer par rapport à ce que vous aviez en tête à fin 2023? Comment se dessine l'atterrissage de cette économie américaine selon vous?
On avait en tête une économie qui ralentit sur la deuxième moitié de cette année, gentiment si j'ose dire. Alors je ne sais pas si on a envie de l'appeler no landing, voudrait dire qu'on reste sur une croissance supérieure à 2%, ça reste relativement peu probable. Après si on l'appelle soft landing, je ne suis pas sûre, ça veut dire que ça va être du...
Que c'est doux, oui.
Voilà. On est plutôt pour l'instant sur ce scénario. Il y a quand même un élément important qui rejoint une question que vous avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire que le resserrement, l'over-tightening, en réalité, quand on regarde où sont les taux réels, déflatés de l'inflation réelle, hein, que vous regardiez aux États-Unis ou en Europe, on est sur des taux réels qui sont à peu près au niveau de la croissance réelle de l'économie. Mm-hmm. Ce n'est pas ce qu'on appelle des conditions extrêmement rigoureuses, entre guillemets,
ou qui
seraient là. Donc, c'est-à-dire que le concept d'over-tightening, à mon sens, est un peu déplacé. on n'est pas dans ce schéma-là. Il y a divers indicateurs, d'ailleurs, dont certains qui sont publiés, dont un qui est publié par la Fed, qui montre que l'impact de la totalité des conditions financières, que vous preniez les taux courts, les taux longs, les taux hypothécaires, enfin tous, sur l'activité, sont au plus de 0,3 points sur l'activité, ouais. Sur la croissance de l'année à venir.
Bien sûr.
C'est-à-dire quasiment rien.
Ouais, bien sûr.
Une partie étant liée, bien sûr, à la bonne tenue du marché d'actions, qui vient compenser en partie les freins que constituent des taux plus élevés. Mais quand vous regardez les entreprises en elles-mêmes, les enquêtes en Europe sont assez intéressantes. Si vous demandez quel est le facteur qui freine l'activité, ben en fait, avec étonnement, que vous regardez les entreprises du service ou de production, ou industrielles, pardon, ben visiblement, le financement n'est pas bloquant du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on est sur des soldes d'entreprises très minces, très fins, qui disent « oui, c'est bloquant ». La plupart vont dire « il n'y a pas de facteur bloquant », ou alors dans l'industrie, vont dire « c'est la demande ».
D'accord.
La demande n'est pas suffisante. Voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est le concept de normalisation.
Ouais, bien sûr.
Il y a aussi un concept, dans le resserrement monétaire, il y a une partie qui a été une normalisation.
Il y a peut-être une perte d'habitude quand même d'un certain nombre d'acteurs financiers sur le... Une hausse de taux, effectivement, dans ce processus de normalisation, de revenir...
Quand vous passez de taux à zéro, c'est vrai qu'on est remonté brutalement, mais au final, l'impact n'est peut-être pas aussi durement ressenti que quand on passe de 4 à 8. C'est pas de même nature, et je pense que ça explique en partie la bonne tenue des marges des entreprises, sachant que le véritable enjeu, c'est est-ce qu'elles vont pouvoir répercuter les hausses de coûts salariaux,
bien sûr,
ou voire continuer à les répercuter ou pas. C'est la question que pose tout le temps Madame Lagarde, la BCE, en disant déjà on se pose la question de savoir où en est l'inflation salariale, productivité très, pour pas dire stagnante, enfin pire que stagnante en Europe, mais de l'autre côté, est-ce que de toute façon, les entreprises vont continuer de passer la hausse du coût du travail ? Et ça, c'est un véritable enjeu pour les marchés financiers. Donc aux États-Unis, nous, on a quelque part peut-être un petit peu moins de difficultés parce qu'on trouve que la modération salariale est plus claire aujourd'hui qu'en eurozone, où on manque de chiffres.
Bien sûr.
Donc c'est plus clair. Et puis, on a une productivité qui, elle aussi, est d'un niveau plus clair. Alors, elle peut être remise en cause, etc. Mais on est au-delà de 1%, 1,5% de productivité en tendance longue aux États-Unis, là où en Europe, voilà. Donc, plus de difficultés dans la clarté du scénario aux États-Unis, en particulier avec tous les grands instituts, en Europe, pardon, avec en particulier tous les grands instituts qui nous disent que l'activité réaccélère en 2025 en Europe. Ça, c'est une question qui, à mon sens, méritera d'être examinée.
D'être examinée.
Oui, absolument.
Et c'est un soutien.
C'est un soutien, parce que ça fait le lien avec ma question pour vous, Jeanne Asraf-Bitton. Quel soutien, à l'heure actuelle, à mi-mars 2024, pour les marchés financiers ? Où est-ce qu'on va chercher du soutien pour continuer cette progression ? Puisqu'on a l'impression, en tout cas, que c'est la volonté des marchés actions. Donc, où regarder pour trouver du soutien aujourd'hui ?
Ça plafonne un peu quand même.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
La hausse s'essouffle, on va dire comme ça. Je pense qu'on arrive sur une période où on pourrait être sur un espèce de plateau avec un peu d'oscillation et un peu de volatilité, ou un peu plus jusqu'à ce qu'on ait une meilleure clarté dans les chiffres sur la reprise du scénario de désinflation, etc. Nous ne sommes pas aujourd'hui très agressifs sur des marchés qui ont beaucoup monté, et justement par manque de catalystes haussiers. Les catalystes, il faudrait les chercher du côté des entreprises, mais bon, on sait qu'une grande partie des évolutions d'entreprises, ben, elles sont un peu derrière nous, et elles sont dans une partie de la tech qui a beaucoup
bien
progressé,
sûr, oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on n'a pas forcément envie de chasser, de courir derrière la tendance, en l'occurrence. Mais on
parce que ce
investi.
Serait courir derrière la tendance. Parce qu'on entend d'autres nous dire, oui, effectivement, c'est cher, mais tant que ça continue de monter, finalement, ça reste moins cher que demain. Mais c'est un autre scénario.
C'est le momentum. C'est le concept de momentum qui est très important sur nos marchés. Et on sait que, bon, voilà. Mais Néanmoins, là, on arrive sur, techniquement, j'allais presque dire, après une phase de hausse qui a été quand même très importante, une phase qui devrait être une phase de prise de profit très saine. Hein.
D'accord.
C'est pas une remise en cause ou un marché baissier. Enfin bon, voilà, donc plutôt une attitude prudente, on va dire, peut-être par manque de catalyse aussi.
Donc finalement, ce qu'on a vu sur Nvidia en fin de semaine dernière, un début de prise de profit, oui, après, était peut-être annonciateur finalement d'un mouvement un peu plus conséquent que...
Oui,
ben
c'est un titre, je crois, qui a pris plus de 80%
bien sûr, début de l'année. Mais c'est pour ça qu'on le prend en exemple.
On peut avoir un peu de prise de profit dessus, enfin, ça me paraît très cohérent. Sur la base des EPS attendus par le marché attendus par le consensus, le titre n'apparaît pas très cher, avec des PE aux alentours de 35-36, et surtout sur la base des résultats qu'on a pu observer.
Hein, bien sûr. Un
trimestre qui était remarquable. Mais bon, après, il y a un moment où il faut que le marché respire aussi.
Hervé Gouletker, est-ce que c'est mi-mars 2024 que le marché commence à respirer? Est-ce que au contraire il y a d'autres soutiens à aller chercher pour les marchés actions? Je parle surtout des marchés actions, mais on peut regarder aussi sur l'obligataire, mais là ma question porte plus sur les marchés actions à l'heure actuelle.
En fait, il y a deux aspects. Il y a un aspect analytique, on en a un peu parlé, puis un aspect comportemental. L'aspect analytique, oui, le marché a fait un pari, a poussé sans doute le pari assez loin, avec une visibilité que j'estime quand même pas très bonne. Et j'ai l'impression que s'il voulait analytiquement poursuivre la hausse, il faudrait qu'on ait un relais par une autre histoire.
D'accord.
Qui soit plus sympathique. Alors, cette histoire-là, ça pourrait être quoi ? Une baisse des impôts qui ne fasse pas peur en termes d'équilibre des comptes publics, ça va être assez compliqué. Dans le cas américain, c'est une évidence. Ou alors, il faudrait qu'on ait une divine surprise sur le front des prix et que finalement, ça ralentisse beaucoup plus vite. Alors, je ne sais pas, les prix du pétrole qui baissent, je ne sais trop quoi, des récoltes au niveau de l'agriculture excellentes, des gains de productivité plus forts. Bon, voilà, il faut qu'on trouve une autre histoire. La probabilité de cette histoire sur la baisse des impôts qui ne fasse pas peur en termes d'équilibre des comptes publics, pas terrible. Sur l'inflation, pas terrible non plus. Sur la productivité, on n'en sait fichtre rien, parce que la productivité, ça s'observe plutôt que ça se prévoit. Mais ce qu'on a vu avec les chocs précédents, que ça soit l'informatique, que ça soit Internet et les réseaux, on a un gain de productivité, mais qui ne dure pas et qui très largement reste à l'intérieur des entreprises, à la genèse de cette technologie. Donc en fait, la diffusion, au minimum, on ne la mesure pas très bien. Donc j'ai l'impression que, analytiquement, trouver un relais par rapport à l'histoire un peu facile et un peu creuse, voilà, d'un cycle conjoncturel qui évolue bien. Bon, moi, j'y crois pas trop. Alors après, il reste le comportemental. Le comportemental, ça a été bien vu par André Orléans, lisant René Girard. C'est-à-dire que les prix sur les marchés, quand ça monte, ça donne envie d'acheter et ça monte. Alors, c'est peut-être pas toujours les mêmes qui achètent. On voit bien qu'aujourd'hui, les investisseurs individuels, au moins dans le cas américain, sont toujours très friands d'achat.
Avec des marchés très concentrés quand même aussi, donc tirés par quelques valeurs.
Vous avez raison. Ouais. Ce qui participe de la fragilité. Et j'ai l'impression que comportementalement, ça va rester jusqu'à qu'il y ait un accident. Alors, l'accident, il peut venir d'où ? Un accident sur l'analyse, on en a déjà parlé. Quelle est la conviction que l'on a sur le scénario? On va bien voir. Ou alors, ça va venir une déception sur un titre qui fait se dire, sur la tech, par exemple, l'essentiel a été fait, le potentiel haussier maintenant est limité. Mais j'ai l'impression que dans les deux cas, il me semble que les relais avec une nouvelle histoire sont un peu compliqués. Alors, ce que je dis tient peut-être de la sagesse. Hein. Depuis octobre, on a dû prendre 25% sur les indices actions. Donc, en peu de temps, ça a quand même été très fort. Et donc, si tout ce petit monde avait la sagesse de s'accorder une respiration pour essayer de voir où on en est, ça serait mieux. Alors, moi, j'ai pas bien d'idée parce que les accidents, on n'arrive pas à les prévoir.
Bien sûr.
Le rationnel nous pousse à dire allons-y pour la respiration. Donc, moi, je ferais plutôt le pari de la respiration, mais je vois bien que c'est une posture. Prévoir en la matière me semble assez compliqué.
Florian Yelpo, même question sur les niveaux de marché aujourd'hui. J'ai envie de vous poser. Vous proposez de choisir entre deux choses, respiration mi-mars 2024 ou performance de l'année déjà faite, comme on a pu l'entendre dès la fin du mois de janvier, quelque part.
Respiration. J'aime bien le cadre analytique et puis côté sentiment, j'aimerais bien repartir de là. Sur le côté analytique, le soutien pour nous, il est très simple, c'est le consommateur. On a vendu un consommateur européen, un consommateur chinois en berne. Aujourd'hui, dans nos indicateurs de nos castings, on capte clairement un pick-up, une accélération, une amélioration de la position de ces consommateurs-là, comme on captait une amélioration de la consommation, de la position du consommateur américain il y a deux trimestres. On a la même tendance, simplement avec le décalage habituel entre les différents cycles. Ça, c'est un relais qui pourrait transformer la respiration en une rotation.
D'accord.
Parce qu'évidemment, on pense respiration sur la partie technologie, mais on oublie qu'il y a plein d'autres marchés
bien sûr. Qui n'ont pas tiré récemment, mais effectivement, qui pourraient effectivement prendre le relais complètement.
Qui pourraient en profiter. On les voit moins, évidemment, depuis de la période de novembre, qui s'étale de novembre à aujourd'hui, on le voit moins. Mais c'est retardataire. Du cycle 2022-2023, pour nous, ils ont toute leur place dans le narratif de 2024. C'est un peu l'un des paris qu'on a fait.
Mais alors, de notre côté. Justement sur le
ça,
sujet,
c'est analytique, hein.
Ça c'est analytique. Mais si on reste sur l'analytique, en 2023, on l'a aussi attendu à un certain moment de l'année. Effectivement, cette rotation sectorielle avec effectivement la thématique un peu plus value, ça a quand même beaucoup moins duré et la tech a repris effectivement les rênes du marché. Est-ce que là, en 2024, l'histoire peut être différente et est-ce que cette rotation sectorielle peut s'effectuer de manière un peu plus pérenne dans le temps?
Alors, je distinguerais la rotation stylistique et la rotation sectorielle. Le côté stylistique, effectivement, les taux qui montent, c'était plutôt value, c'était plutôt anti-growth, et ça, anti-croissance, et ça, on l'a relativement bien vu. Quand c'est arrêté, la tech a repris le dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que les boîtes de tech avaient du cash sur leur compte en banque.
Bien sûr.
Et que le cash, soudainement, était rémunéré bien plus qu'auparavant. Maintenant, sur la rotation sectorielle, qui est une autre histoire, quelque part, il y a moins de rotation sectorielle qu'un effet taille.
D'accord.
C'est-à-dire que les grandes ont tout emporté. On le voit beaucoup aux États-Unis parce qu'on en parle beaucoup, mais on devrait également le voir en Europe. L'Eurostock 50 fait beaucoup mieux que l'Eurostock 600. Donc il y a une question de taille d'entreprise. Les petites et moyennes ont moins suivi, enfin ont sous-performé clairement les larges, les granolas européennes, comme on les appelle depuis maintenant quelques années. Donc oui, 2023, ça a été peut-être quelque chose de frustrant pour beaucoup. Nous, 2023, on est plutôt un scénario, récessionniste. Je ne sais pas si c'est un mot français qui existe.
On comprend l'idée.
Avec des pressions d'une forme qui pourrait prendre la forme d'une forme de landing qu'on n'a pas eu. Au contraire, ces large caps ont largement bien traversé, bien géré cette situation-là. Et effectivement, le consommateur, comme je le disais, américain, à la fin de l'histoire, a été le grand vainqueur de cette situation-là. Ça, c'est pas le côté analytique. Et si je joue sur le côté sentiment, c'est
bien
là
sûr.
Qu'on voit la respiration. C'est que quand on regarde, on regarde beaucoup des indicateurs d'appétit pour le risque. Alors, ils sont à des niveaux très élevés et ils sont en train de se replier ces derniers temps. On le voit notamment dans la liquidité qui se tend. On l'a vu un petit peu également dans les volatilités implicites sur le marché actions, mais pas tant que ça sur le côté du côté crédit. Le marché du crédit, il reste très positif. Il voit justement plutôt, il est très décidé pour un scénario très positif. C'est peut-être là qu'on pourrait avoir le maillon faible, serait peut-être de ce côté-là. La chaîne est aussi solide que le plus faible de ses maillons. Le crédit est peut-être l'un de ces éléments-là. L'autre chose qu'on regarde, on utilise beaucoup de signes de tendance pour guider nos investissements. Ces tendances sur le marché actions, elles se sont largement améliorées, parties de niveaux assez bas. Aujourd'hui, elles sont vraiment à des niveaux très élevés. Et là aussi, on commence à avoir un petit effet de repli qui nous rend plus prudent aujourd'hui qu'on ne l'était il y a un mois en séquence. Donc on a été très prudent, comme vous le savez.
Ensuite, bien sûr,
plutôt agressif, novembre-décembre, on a gardé ce positionnement agressif. Aujourd'hui, on a tendance à replier marginalement la voilure. Hein. Ça, c'est un élément important.
Bien sûr, oui.
Parce que justement, sentiment, l'aspect fondamental dans l'ensemble, on voit plutôt de l'amélioration à venir pour la deuxième partie de l'année, côté européen et chinois, pas côté américain. Côté américain, il y a une séquence à respecter. La deuxième partie de l'année, on voit des formes de ralentissement qui sont déjà signalées par pas mal d'indicateurs avancés.
Si on fait un petit tour effectivement sur ce que vous regardez de manière un peu plus précise dans le marché aujourd'hui, si je comprends bien, l'obligataire finalement n'est pas. Vous trouvez qu'il y a trop de volatilité aujourd'hui à l'heure actuelle sur l'obligataire? Qu'est-ce que vous regardez qu'on n'aurait pas évoqué aujourd'hui? Par exemple, les émergents, est-ce que c'est une classe d'actifs sur lesquels il faut continuer à aller regarder, peut-être pas en Chine, mais en Inde, par exemple?
Alors, pour plein de raisons, pour nous, pour paraphraser un ancien président, les émergents, c'est maintenant. Pour nous, il y a un potentiel assez intéressant du côté émergent. C'est une nouvelle thématique qu'on a dans notre portefeuille. Ces périodes qu'on appelle un peu de late cycle, la Banque centrale n'a pas encore baissé ses taux, mais elle a décidé qu'il allait y avoir un plateau et elle attend pour baisser les taux. Elle profite plutôt généralement aux émergents, parce que pour des raisons de décalage de cycle, mais aussi pour des raisons d'affaiblissement du dollar. Et on est un peu là-dedans, dans cet environnement-là. Ensuite, les valorisations sont moins effrayantes qu'elles peuvent l'être de par ailleurs. Et ensuite, la composition des indices actions émergents, elle a changé. On le disait tout à l'heure, la part de la Chine, notamment dans le MSCI Emerging, n'est plus du tout la même qu'elle l'était il y a 3 ou 4 ans en arrière. Acheter des émergents aujourd'hui, c'est acheter quelque chose d'assez différent d'il y a 5 ans en arrière, disons-le simplement. Et il y a cette rotation de la Chine vers l'Inde, donc de quelque chose qui est plutôt value vers quelque chose qui est plutôt qualité, quelque chose qui se paye d'ailleurs assez cher encore aujourd'hui, qui aussi est un message pour nous, disons, d'une progression de la qualité des indices émergents qui nous donne envie d'y aller.
Jeanne Assérave-Bitton, même question, très large, hein. Qu'est-ce que vous regardez dans le marché aujourd'hui? Quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué par exemple, small et mid cap, obligataire, émergent ou autre?
Alors c'est vrai qu'on regarde les small et mid cap plus en Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Parce qu'il y a un aspect qu'on peut noter assez bien, hein, une corrélation inverse de performance relative avec les taux réels, et qu'on pense que la hausse des taux réels est terminée. Donc c'est un facteur qui va soulager, entre guillemets, les small caps, et on est sur des niveaux de décote de valorisation extrême.
Mm-hmm. Donc ça bien sûr, oui.
Oui, mais c'est vrai, ça appelle un peu de d'oxygène. On a regardé beaucoup le Japon. Alors c'est vrai que là, le rallye a été tel que ça demande là aussi une respiration.
C'est ça, le Japon c'est peut-être plus maintenant pour reprendre ce que disait Florian Yelpo.
Mais il y a quand même une histoire intéressante qu'il faut suivre sur la sortie de déflation de ce pays après 30 ans de déflation, parce que si effectivement les évolutions se confirment, s'ils ont du succès dans toutes les réformes structurelles qu'ils ont engagées, certaines montrent déjà leur succès, mais d'autres il faudra voir. C'est une story à regarder et qu'on continue de regarder d'assez près. Après, on commence à être tenté quand on arrive sur les niveaux de taux à 10 ans, quand on est sur un 2,30 en Allemagne, ou quand on est aux alentours, comme on est de 4,10, 4,20 aux États-Unis. Pour nous, ça commence à être des niveaux attractifs sur l'idée d'un ralentissement en deuxième moitié de l'année. Voilà.
Pour reboucler effectivement avec le scénario qu'on évoquait en début d'émission, Hervé Gouletker, même question, qu'est-ce que vous regardez dans le marché aujourd'hui? Alors, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, peut-être que vous souhaitiez en parler, ou au contraire pas forcément, c'est peut-être pas là le narratif de marché qui va soutenir.
Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est, on est très tout plein d'allants sur les marchés actions, on en a parlé, même si on parle de respiration. Dans le même temps, il y a l'or qui monte.
C'est vrai. Ouais.
Dans le même temps, il y a le Bitcoin qui monte, qui paraît aujourd'hui plus relié à l'or qu'au marché actions, qu'à la tech. Et donc, ça envoie des signaux, je trouve, un peu étonnants. Et moi, j'ai envie de dire que les marchés actions, on l'a dit, redit, la logique est très cyclique. Voilà, on se raconte une histoire cyclique, vraie ou fausse. C'est celle qu'on se raconte. Et j'ai l'impression que sur l'or et sur le Bitcoin, on nous raconte une histoire plus structurelle.
D'accord.
L'or nous dit, bon, finalement, tout ça, c'est bien, mais il y a quand même du risque, ça pourrait se passer autrement. Je prends une assurance. Et puis, le Bitcoin, qui n'a plus, à mon avis, aujourd'hui, un statut de monnaie. Mm-hmm. On disait que c'était crypto-monnaie. Aujourd'hui, on parle de crypto-actif. Et je pense que dans ce crypto-actif, avec la confusion qu'on a un peu avec l'or, il y a aussi la recherche d'un actif alternatif, si jamais sur les actifs plus classiques, ça se passait pas très bien. Et juste un mot sur les émergents. Alors, pour dire, moi, je suis prudent sur les marchés émergents aujourd'hui, parce qu'il me semble que la géopolitique aujourd'hui nous force à être prudents. En fait, la mondialisation devient un jeu à somme nulle. Et en fait, les émergents sont à peu près sommés de choisir leur camp. Est-ce qu'ils sont plutôt du côté des Américains et de leurs alliés, plutôt du côté des Chinois et de leurs affiliés?
C'est pas tout à fait pareil.
Nuance dans les mots choisis. Et en fait, on ne sait pas très bien. Prenons le Brésil. De quel côté va-t-il osciller un peu plus? Prenons l'Inde. De quel côté va-t-il osciller un peu plus? Beaucoup de pays asiatiques, on ne sait pas très bien quel sera leur statut. Donc, dans ce jeu à somme nulle, j'ai l'impression que si... Il y a de la tension qui monte, les émergents vont souffrir, et comme on n'a pas de visibilité sur ces évolutions géopolitiques qui nous échappent en grande partie, voilà, moi j'ai une certaine réserve, et je trouve que l'image d'ensemble me paraît pas très cohérente, et donc il y a des histoires il y a des horizons de temps qui sont pas les mêmes selon les actifs, et donc ça fait pas une image cohérente, et donc il faut faire un peu attention.
Il faut faire attention et regarder ça de près du coup pour naviguer entre toutes ces différentes classes d'actifs ou thématiques. Merci beaucoup Hervé Goulet-Kerr, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Merci Jeanne Asséraf-Bitton, directeur de la recherche et stratégie de BFTIM. Merci Florian Yelpo, responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard Odier IM. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.